19h et quelques secondes sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, un peu de mémoire, mais de la mémoire sous toutes ses coutures, et un peu de manga. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par uniquement moi-même et c'est déjà pas mal. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de mémoire. Oui, parce que trouver une thématique commune à toutes mes lectures, c'est pas toujours évident. Et là, assez simplement, il y a quelque chose qu'on est ressorti, c'est cette notion de la mémoire. La mémoire, parce qu'effectivement, on va parler de la mémoire de l'histoire, le devoir de mémoire qui peut être enseigné à l'école, mais aussi de livres qui ont pu parler de la mémoire et de ce qu'on en fait. On va commencer avec un truc un peu plus, on va pas dire lourd hein, comme sujet, mais effectivement la mémoire, le devoir de mémoire, le mémoire de se rappeler des événements de la guerre et de ce qui en découle, pour surtout éviter en fait que ça se reproduise, et ben comme on peut le voir, des événements qui sont assez similaires. Comment dire, j'ai deux albums. Le premier, c'est un album qui a été publié aux éditions Sarbacane. C'est le troisième tome d'un triptyque qui s'appelle Allons enfants. Celui-ci est consacré à Louise et Gaspard. Alors, si vous connaissez pas cette série Allons enfants, c'est une série qui se concentre sur une famille dont j'ai zappé le nom, les Kelenek. Une famille qui va parcourir par son histoire, les guerres de France. Alors, toutes les guerres de France, non, mais au moins la première et la seconde guerre mondiale. Il y a un petit résumé, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les précédents pour pouvoir le lire. Le premier, ça parle de François et Josette, qui vont couvrir de 1870 à 1918, et puis Jean et Suzanne, de 1918 à 1945, et puis Louise et Gaspard, de 1945 à 1963. Et là, on va suivre en fait une famille qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, décide de se reconstruire. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit non seulement cette famille qui va se reconstruire, essayer de vivre avec ce qui a pu se passer avant, mais aussi de partir vers l'avant et vers les conséquences de ces guerres de manière assez, assez vivante en fait. Ils ont décidé de passer à autre chose, mais il y a toujours cette mémoire, ces choses qui viennent les hanter. Ça peut être l'oncle qui était collabo, ça peut être aussi des courriers retrouvés, des choses qui ont pu s'être passées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont permettre de découvrir un petit peu ce qui le lecteur va pouvoir découvrir au travers de cette famille ce qui a pu arriver dans cette période et les conséquences que ça a pu avoir sur cette vie de famille. Que ce soit avec Gaspard qui lui va découvrir il va se plonger à fond dans la musique avant d'aller en service à Berlin. Pour ceux qui savent, hein, Berlin, il s'est passé quoi sur cette période-là? Il y a une espèce de construction d'un mur. Et puis, on a Louise qui, elle, va décider de devenir reporter et qui va aller sur d'autres conflits que l'on connaît sans doute moins en Europe, mais qui vont pouvoir avoir un impact important, comme Dien Bien Phu par exemple, ou l'Algérie. C'est un bouquin qui est dessiné de manière assez, assez, je veux pas dire enfantine, mais on est sur un dessin qui est plutôt, plutôt souple, qui est plutôt très accessible en fait par les enfants. Il y a pas mal de textes. Je suis pas persuadé qu'en fait les enfants vont être facilement attirés, mais c'est assez fluide dans le texte. C'est pas lourd, hein, c'est pas des gros pavés, mais c'est quand même une BD qui est quand même assez bavard, mais qui fonctionne bien. C'est assez didactique. On nous présente des choses, on nous présente des événements, sans les alourdir, sans les rendre plus plus durs que ce qu'ils sont, en rajoutant une petite dose de comédie, une petite dose d'humour, ce qui rend les choses vachement intéressantes, et c'est super cool. Je vous redonne les références de cet album. C'est Allons Enfants, avec un Z apostrophe avant enfant. C'est le tome 3, c'est Louise et Gaspard, c'est publié aux éditions Sarbacane, et c'est une BD qui, mince, j'ai perdu le nom des auteurs. Ah, la BD m'échappe. C'est une BD de Yann Lega et Pierre Fouillet, et c'est très sympathique à découvrir pour pouvoir permettre aux enfants de comprendre les conséquences d'une guerre, et que c'est pas parce qu'on en parle moins qu'il n'y a pas d'autres guerres aussi en même temps. Donc voilà une très très belle lecture. Et puis la deuxième lecture, alors qui est pas moins belle, hein, attention, je vais pas dire ça, mais qui est sans doute un petit peu moins accessible, même si elle reste quand même assez facile à prendre en main, mais qui sera sans doute à réserver à un public un petit peu plus adulte, malgré un dessin très enfantin également. Il s'agit de Simone, de Jean-David Morvan, de je vais y arriver. Décidément, avec les auteurs ce soir, je suis désolé. Jean-David Morvan, David Évrard et des couleurs de Walter, qui est publié aux éditions Glénat. Ça, c'est le tome 1 qui s'appelle Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Et c'est une série qui sera complète en 3 tomes. Pour ceux qui... C'est un bouquin qui m'a attiré parce que j'ai lu une autre série des mêmes auteurs qui s'appelle Irena, chez le même éditeur, qui était vraiment très très intéressante, qui était passionnante, sur une femme qui fait passer des enfants en dehors des camps de concentration. Et ça fonctionnait très très bien pour pouvoir découvrir ce que c'était que les horreurs de la guerre, et puis certaines figures qui ont pu aider à en sortir. Et là, en fait, on va se concentrer sur Simone, une petite fille qui a connu de manière très proche un certain monsieur dont moi le nom me faisait beaucoup rire, jusqu'à ce que je comprenne qui était ce monsieur, et il m'a beaucoup moins fait rire. Il s'agit de Klaus Barbie, qui était surnommé le boucher de Lyon. Et en fait, on suit cette femme, une femme âgée, qui un soir, alors qu'elle faisait à manger, voit un homme sur un écran. Et cet homme fait qu'elle en perd sa nourriture, elle laisse tomber sur la place. Et elle se retrouve projetée de nombreuses années avant, où elle a déjà vu ce visage. Il s'agit effectivement de Klaus Barbie, qui a arrêté une partie de sa famille et qui l'aura torturé. Un sujet pas forcément très très drôle, hein, effectivement, mais qui est servi par un dessin... que je vais qualifier de tremblotant. Il y a une espèce de trait un peu épais, mais un peu pas régulier, et qui rend le dessin assez doux et assez agréable. C'est rajouté avec la couleur, hein, ça marche très très bien. Et on a ce côté un peu enfantin, avec des personnages qui sont avec des un petit peu pointus, avec un côté un peu cartoon, un peu enfantin, qui marche très très bien, qui pourrait laisser passer, penser que on peut le confier à des plus jeunes. Mais on a quand même une certaine violence dans l'album. Il y a certains moments qui sont un peu sensibles, qui vont vous mettre la larme à l'œil, et qui fait que si vous souhaitez le donner en lecture à vos enfants, attendez qu'ils aient 10-11 ans et accompagnez-les dessus. Je pense qu'en dessous, ce sera un petit peu limite pour certaines scènes, certains passages qui seront peut-être un petit peu compliqués à expliquer, ou compliqués à sortir d'un contexte de violence, malgré le fait que ce soit le thème de l'album. Donc c'est vraiment un bel album. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant à découvrir, qui permet de resituer aussi le contexte de ce procès qui a été un petit peu un procès hors norme, puisqu'il a fallu trouver beaucoup de... comment dire, de personnes, en fait, pour témoigner contre Klaus Barbie à cette époque. Et ça n'a pas forcément été une partie de plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un bel album. C'est 3 tomes, donc ce n'est pas une grosse série, mais en même temps, ça va vous permettre de vous éclairer sur certains passages et sur certaines choses qui ont pu se passer pendant cette Seconde Guerre mondiale. Pas loin de chez nous, hein. C'est ça qui est d'autant plus dramatique. Je redonne les références. C'est Simone, le tome 1 s'appelle Obéir c'est trahir, désobéir c'est servir. C'est un scénario de Jean-David Morvan, un dessin de David Évrard et couleurs de Walter, et c'est publié aux éditions Glénat. Et n'hésitez pas à aller checker des mêmes auteurs l'excellente série Irena, qui elle est en 5 tomes si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais vous faire une pause musicale avec un peu plus détendu, même si la thématique est un petit peu mortelle, avec Cadillac et Origine Nulle pour la chanson Game Over, et on se retrouve juste après avec Yunji Inada qui est COO de manga.io. Il l'expliquera lui-même ce que ça veut dire que d'être un COO. On se retrouve juste après Cadillac et Game Over.
Y'a plus de soleil, plus de réveil. C'est les vacances, les grandes vacances. Je dors debout, boulevard des allongés. Relax à la cool, dans ma cabane en acajou. Je me la coule douce, ici je repose. J'écoute des CD, c'est son de l'au-delà. En mode silencieux comme si je...
type doux comme un agneau avec la chanson Game Over sur le 100.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. J'espère que vous passez toujours un bon moment avec nous, hein, malgré une thématique un petit peu macabre. Mais bon, c'est pas très très grave. Il fait beaucoup de jeux de mots et c'est plutôt drôle. Je vous propose maintenant d'écouter une interview que m'a consacrée, que m'a octroyée Yuji Inada, qui est COO de la plateforme Manga.io, manga.io. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, je vous invite à aller la découvrir. C'est une plateforme de lecture en ligne de manga. Actuellement, il y a une offre promotionnelle. Alors, je vous fais la pub, hein, quand même. Jusqu'au 31 mai inclus pour votre premier mois, ce sera 2 euros seulement pour accéder à plus de 500 tomes de manga en lecture illimitée, que ce soit sur tablette, téléphone ou ordinateur, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça vous permet de piocher un petit peu dedans et puis peut-être d'acheter des séries ou au moins de découvrir des mangas que vous n'auriez pas vus. Mais ça, on en parle tout de suite avec Yuji Inada, qui est CEO de manga.io. Alors, je suis avec Yun, qui est COO de Manga.io.
Bonjour, Seb.
Bonjour, Yun.
Bonjour.
Merci. Est-ce que tu peux, alors, dans un premier temps, nous dire ce que c'est que COO ?
Alors, COO, c'est l'acronyme de Chief Operating Officer, ce qui en français, en bon français, donne directeur des opérations. Pour résumer ça en un mot, je suis un peu le chef d'orchestre de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est moi qui coordonne les différents pôles chez Manga.io, puisqu'on dirait pas comme ça, mais c'est un projet qui grandit vite et on est déjà 15 personnes, donc ça fait du monde à manager. Et donc je suis le bras droit du créateur de l'entreprise qui s'appelle Romain, que vous avez sûrement déjà vu.
Du coup, 15 personnes, et en combien de temps, c'est à quel âge Manga.io ?
Alors, officiellement, c'est un peu plus de 2 ans, puisque l'entreprise a été fondée en octobre 2019. Mais ça dépend comment on compte. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça fait plus de 3 ans parce que le projet, avant d'être une entreprise, c'était aussi un PowerPoint qui a été montré par Romain à des éditeurs japonais en 2018. Et on pourrait dire que ça fait moins de 2 ans, d'ailleurs bientôt 2 ans, puisqu'on a lancé notre bêta officielle, donc notre produit a été lancé officiellement le 4 mai 2020. Donc voilà, il y a différentes dates qui sont prises en compte, mais je pense qu'en un mot, on peut dire que c'est une entreprise assez jeune.
Est-ce qu'on peut revenir éventuellement aux origines de Manga.io ? Pourquoi ça a été créé ? Ouais. Et comment ?
Alors c'est assez simple. D'ailleurs, on parlait de dates. Je crois que les tout premiers débuts de Manga.io, c'était en 2014 quand Romain a déposé le nom de domaine manga.io. Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'avènement de Netflix et Spotify, mais ça commençait à bourgeonner un petit peu. Et c'était aussi l'époque où la Scantrad, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, était très très dominante en tant que modèle de consommation numérique habituel pour les lecteurs de manga. Malheureusement, dans la plus grande illégalité. Et donc, c'est un peu à cette époque qu'a germé l'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire une plateforme légale qui fonctionnerait un peu comme un Netflix, donc avec un abonnement et de la lecture illimitée. Et puis après, le temps a passé, différents projets ont suivi leur chemin, et puis du coup, c'est en 2018 que ça s'est vraiment lancé dans le démarchage. Et du coup, il y a eu un peu cet embryon de projet qui s'est fait avec une première rencontre des éditeurs français, japonais, pour voir s'il y avait vraiment une appétence du monde éditorial sur le sujet du numérique ou pas. Et petit à petit, ça s'est mis en place. Donc en gros, il y a vraiment à l'origine une sorte de solution, une réaction vertueuse à proposer quelque chose en alternative à la Scantrad sur le numérique.
La propriété numérique des albums et puis l'exploitation numérique, que ce soit de la BD ou du manga, c'est quelque chose qui est assez peu fait par les éditeurs de manière officielle. Comment ça se traduit, ça se travaille avec les éditeurs ?
Alors en fait, c'est pas vraiment que c'est peu travaillé en fait. C'est-à-dire que c'est jusqu'à présent, en fait, on pourrait pas dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'initiatives numériques. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites depuis à peu près 2010, et même avant, hein, mais y a eu quand même pas mal de tentatives du monde éditorial d'imposer des solutions numériques légales, mais aucune n'a vraiment marché. Et si on peut expliquer ça rapidement, c'est que ça a toujours été comme ça dans toutes les industries culturelles, en fait, que ce soit pour la musique, le cinéma, etc. Les solutions légales pensées par les acteurs déjà en place, elles sont pensées pour répondre à un certain cadre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les éditeurs qui vendaient des livres papier à l'unité dans des librairies ou dans des FNAC ont voulu reproduire ce modèle-là dans un espèce de dans une marketplace. Donc par exemple, quand on regarde des sites qui existent depuis pas mal d'années, hein, sur les Sequencity, les Isneo, etc., c'est pensé comme une librairie en ligne. C'est-à-dire que vous avez une marketplace, vous pouvez acheter un PDF de One Piece un petit peu moins cher, mais finalement c'est pas si éloigné du prix du papier physique, vous le mettez dans votre panier. Donc voilà, cette expérience-là, elle est calquée sur une expérience papier. Et en fait, à chaque fois dans les industries créatives, vous avez un acteur tech qui vient, et il y a un peu le mot qui est un peu galvaudé, il disrupte le marché. Mais en fait, pour parler simplement, c'est juste qu'il il s'adapte vraiment aux usages des lecteurs, des consommateurs, et il propose une solution qui est beaucoup plus adaptée au comportement de l'acheteur. Donc c'est en fait, en gros, on est un peu dans cette phase-là. On est dans cette phase où nous, en tant qu'acteurs tech, on arrive avec une solution qui est beaucoup plus pensée par rapport aux usages des lecteurs de manga qui ont l'habitude de la scantrad, qui commencent à avoir l'habitude de webtoon, et qui n'ont pas, en fait, dans leurs attentes, le fait de posséder un PDF qu'ils vont acheter à la pièce. Mais ils ont un usage de découverte sur le numérique, puisqu'après la possession, ils vont l'avoir sur l'achat papier. C'est très complémentaire, les deux ne sont pas du tout à opposer. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que ça ne s'est pas forcément développé de la manière dont la communauté l'attendait, en fait. Et c'est toujours un peu dans ces phases de développement des industries créatives que ça se fait.
Donc si j'ai bien suivi, manga.io, c'est pas une alternative au manga papier, c'est plutôt une complémentarité.
Exactement, c'est une alternative à la scantrad, une alternative légale à la scantrad. Et c'est exactement ça, c'est un produit complémentaire dans la découverte et l'achat de manga. Donc c'est vraiment complémentaire du papier. Et à chaque fois qu'on fait des études là-dessus, y a beaucoup d'exemples qui montrent ça. La plupart des lecteurs de manga vous diront qu'ils ont découvert souvent des titres en scantrad et ils les ont achetés ensuite en papier. Parce qu'en fait, ils voulaient juste savoir si le produit leur plaisait. Donc en fait, il y avait une consommation qui se faisait comme ça. Mais derrière, il y a une vraie fidélité au papier, de dire « Ouais, moi, je veux du palpable, j'ai envie d'avoir l'odeur de mes bouquins et le visuel dans ma mangathèque. » Que je prends en photo fièrement sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a vraiment deux comportements très différents. Et on le voit vraiment, par exemple, je peux te donner un exemple qui parlera à tout le monde. Le Pass Culture, par exemple, qui a été renommé Pass Manga parce que tous les jeunes utilisaient leurs 300 euros pour acheter du manga. Si les lycéens voulaient vraiment découvrir des mangas grâce à leur Pass Culture, ils auraient acheté 3 tomes de One Piece, 5 tomes de Assassination Classroom. Tu vois ce que je veux dire ? Ils auraient réparti leurs achats. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est pas du tout ça. On a vu les jeunes arriver et dire « Voilà, bah, moi, je veux les 70 tomes de Naruto, je veux tout Berserk, je veux tout One Piece. » Parce qu'ils les avaient déjà lus, en fait. Ils les avaient déjà lus, mais ils voulaient avoir la collection en papier, en entier. Donc, il y a vraiment, ces deux usages. Et qui dit deux usages, dit deux produits, le manga papier et le manga numérique à l'abonnement. En tout cas, c'est la solution qu'on essaie de pousser.
Du coup, techniquement, une solution numérique avec un abonnement, comment ça se travaille ? On a un coût qui est pas, que moi je trouve très raisonnable. Mm-hmm. Ça se calcule comment ? Ça s'articule comment ?
Alors, là, tu parles plutôt en termes de modèle économique, c'est ça, je suppose ?
Alors, une partie sur le modèle économique, et puis après, on va peut-être parler de la partie mécanique, en fait. Comment on arrive à rendre une expérience de lecture sur tablette agréable ?
Ouais, d'accord, ouais, ok. Oui, du coup, il y a deux sujets. Donc, alors, sur la partie du modèle économique, sujets, ouais. et assez simple, en fait. En gros, c'est un peu comme sur Spotify, hein. C'est-à-dire que tous les abonnements qui sont payés par les abonnés viennent créer un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, ensuite, il est redistribué aux éditeurs en fonction du nombre de lectures qu'il y a eu sur chacun de leurs titres. Donc, par exemple, si il y a Naruto qui représente 10% des lectures de ce mois-ci, il y a 10% du CA, du chiffre d'affaires, qui va être redistribué à l'éditeur. Et ça fonctionne sur toutes les séries comme ça. Donc le modèle est assez simple, hein, en fait. C'est pas très très complexe, c'est une proportionnalité de lecture. Donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question sur un peu la construction de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment...
Alors sur...
Oui, pardon.
Sur la première, je voudrais juste compléter.
Bien sûr.
Comment on arrive à ce calcul d'un coût d'abonnement qui correspond à peu près à un seul mois, en fait, au coût d'un manga normal?
Ça, c'est des vraies études qu'on a fait pendant pas mal de temps, avec des sondages auprès de plusieurs milliers de personnes, pour savoir un peu quelle était l'élasticité du prix pour un consommateur. Donc, est-ce qu'un lecteur de manga, il est prêt à payer 15 euros par mois, 20 euros par mois, 3 euros par mois? Et au final, la réponse qui faisait le plus consensus, en fait, c'était pour le prix d'un manga par mois. Donc, on est resté sur ça, sur le prix d'un manga par mois. Et ensuite, on a fait différents tarifs pour la bêta, etc. Mais on entend rester toujours sur cette idée de, pour le prix d'un manga par mois, prix moyen, vous avez accès à plusieurs centaines de tomes et de séries, quoi.
Ok, super. Et du coup, effectivement, la partie technique, comment on rend une expérience de lecture agréable sur tablette, téléphone ou même ordinateur, parce que c'est multi-support en Mangayo?
Complètement. En fait, c'est vraiment le cœur du métier. C'est-à-dire que nous, comme je disais tout à l'heure, on est une entreprise tech. On est une entreprise tech qui fournit une expérience de manga. On n'est pas un éditeur ou un éditeur en ligne ou ce genre de choses, quoi. Donc on a une équipe aujourd'hui qui dont la plus grande partie des ressources est consacrée à la tech, avec des développeurs qui sont seniors, qui sont très expérimentés. Et donc il y a à la fois le côté développement et il y a le côté qu'on appelle UX. Donc UX, c'est User Experience, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu comment est-ce que vous allez pouvoir adopter le produit Manga.io avec le moins de freins possible et que ce soit le plus simple possible. Et donc on a aussi une équipe qui est une équipe au produit et à l'UX, du coup, qui conçoit la plateforme pour que ce soit une expérience sans frein. Et le modèle de l'abonnement, c'est sa force principale, c'est que une fois que vous êtes dans l'abonnement, vous pouvez cliquer sur n'importe quel titre et les découvrir. Vous n'êtes pas freiné toujours par faut rajouter au panier, faut acheter des coins, faut mettre une carte bleue. Genre de choses. En fait, c'est une expérience sans aucun frein. C'est pour ça que c'est un modèle qui est très puissant, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment notre expertise en tant que Manga.io, c'est comment est-ce qu'on construit une plateforme qui est vraiment facile à utiliser. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était Christelle Oulance, la DG de Cana. Quand les éditions Cana sont arrivées sur la plateforme, elle répondait dans une interview en disant « Manga.io, c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire, mais on n'avait pas forcément la compétence et la capacité de le faire en interne. » Parce que, eux, ils sont des vendeurs de papier avec une vraie expertise et un vrai métier qu'on serait incapable de faire, nous. Et nous, notre truc, c'est la tech. Donc, c'est... Voilà. Chacun aussi a son expertise, quoi.
C'est plutôt un beau compliment de la part de Cana, d'ailleurs.
Exactement. Voilà, c'est un très beau compliment. Et puis, on est très, très, très fiers de les avoir accueillis, eux et nos 9 autres éditeurs, en assez peu de temps.
Une expérience utilisateur qui est poussée un petit peu plus loin, puisque sur le site, les utilisateurs peuvent proposer des évolutions.
Oui.
Alors, si je ne me trompe pas.
Ça fait partie aussi de l'ADN de la boîte. C'est-à-dire que plutôt que de faire, parce que ça existe, hein, vous avez des grosses, très très grosses entreprises qui arrivent avec beaucoup d'argent, plutôt que de faire quelque chose qui est de haut en bas, on a voulu faire plutôt quelque chose qui se construit du bas vers le haut. Et en fait, depuis le tout début, on s'est dit, Manga.io, c'est une expérience qui est... qui est un peu un serpent de mer. Ça fait 10 ans qu'on dit, on aimerait avoir une plateforme, un Netflix du manga, machin. Si ça s'est jamais fait, c'est que il y a vraiment des difficultés, et notamment dans la création d'une communauté qui comprend ce que l'on veut faire, et d'une entreprise qui comprend la communauté manga, qui comprend ses codes de communication, qui sait quelles sont les attentes des lecteurs. Et donc, depuis le tout début, on a fait ça avec la communauté. Quand on a lancé le produit, on a recruté, on a ouvert en fait à 200 premiers bêta ambassadeurs qui nous suivent depuis le début, qui nous ont fait plein de retours, etc. Et donc, on continue à le faire. On est toujours très attentif à ce que la communauté veut nous dire, parce que c'est un projet qui est un peu fou. Et on peut pas y arriver tout seul, donc il faut avoir une attitude assez humble et bien connaître voilà, sa communauté, son marché, son pays, comment est-ce que ça fonctionne. Et je pense que c'est grâce à eux qu'on ira le plus loin possible.
Une communauté du coup qui a grandi, ça représente combien d'utilisateurs actuellement, mon Gaillot ?
Alors, c'est assez large. Alors, ça dépend de quoi on parle. En termes de communauté, vraiment, sur les réseaux sociaux, on est à plusieurs dizaines de milliers. Je crois que rien que sur la newsletter, il doit y avoir 30 ou 40 000 personnes. Sur le nombre d'utilisateurs au total, alors le nombre d'utilisateurs actuel change un peu tout le temps, vous savez, puisque les gens s'abonnent et se désabonnent. Mais sur un total, on a dépassé aujourd'hui les 35 000 comptes créés. On arrive assez vite vers les 40 000 comptes. Donc voilà, ça augmente vite. Et puis, bah forcément l'arrivée de Kihoon, puis d'Akata, puis de Kana, forcément fait qu'il y a une montée en puissance qui est assez importante, quoi.
Oui, avec des titres qui sont, on va dire, des locomotives pour les lecteurs, en fait.
Exactement.
Avec l'arrivée, par exemple, de Naruto, là, qui est quand même un grand nom.
Un grand nom, et puis, du coup, alors, on a annoncé le 19 avril... aussi l'arrivée de son fiston de Boruto.
Donc Boruto.
Ouais, exactement, donc ça continue et puis c'est super parce qu'en fait tu sais dans le jargon de Mangaio on y reviendra peut-être plus en détail, mais en fait le process pour arriver à faire venir des éditeurs et des titres, c'est un process qui est très difficile et qui est assez long. Et nous on a appelé ça la lasagne. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment un travail par couche. Donc, c'est la lasagne Mangaio. Donc, en fait, dans les grandes étapes, il y avait vraiment de dire, déjà, est-ce qu'on peut intéresser les éditeurs? Est-ce qu'on est capable de lancer un produit avec des premiers utilisateurs et un premier catalogue? Est-ce qu'on est capable de faire cohabiter plusieurs éditeurs sur la même plateforme? Et un peu l'étape qu'on vient de passer, qui est est-ce qu'on est capable d'avoir des très gros titres et des très gros éditeurs aussi. Et ça passait par un accord avec un peu du Big Three en France, donc là en l'occurrence Kana, et aussi un accord avec des acteurs japonais de premier plan. Et on est la première plateforme au monde et la seule aujourd'hui à avoir des titres de la Shueisha dans un abonnement. Et c'est un cas unique à l'échelle planétaire, donc on est très fiers de ça. Et puis maintenant il y a la lasagne d'après, la couche d'après, c'est arriver à faire venir encore plus d'éditeurs et encore plus de titres. Donc voilà, donc on travaille un peu patiemment couche par couche et donc il y a vraiment une très grosse étape qui a été franchie il y a quelques mois. Donc on est très content et maintenant on donne tout pour la lasagne d'après, quoi.
Effectivement, un bon plat, c'est un plat qui demande un petit peu de temps à être préparé.
Exactement.
Avec pas mal d'ingrédients. Et là, on sent qu'on commence à avoir une mayonnaise qui prend.
Exactement.
Si on veut rester dans le jargon culinaire.
Et il faut des bonnes matières premières, donc on peut pas, voilà.
C'est ça, c'est bien construire la base pour éviter que le château s'effondre après.
C'est ça.
Là, ça représente combien d'éditeurs, Mangaio ?
Mangaio, c'est 10 éditeurs français. Alors, je compte pas tous les éditeurs les ayant droit, parce que sinon, il y en aurait beaucoup plus, tu vois, en Chine, au Japon, en Corée, etc. Enfin, il y aurait d'autres ramifications, mais sur les éditeurs qui publient en France, il y en a 10. Une très grande fierté pour nous. Et on avait commencé avec un éditeur, qui était les éditions Black Box. Et puis, aujourd'hui, on est à 10. On a Naban, on a Nasca, Kotoji, Mao, Yamacho, Maned, Akata, Kihoon et Kana. Et on continue nos discussions. Évidemment, à chaque fois que vous avez un éditeur qui arrive, c'est parce qu'il y a eu des mois de discussion avant et on avait fait le choix de ne pas en parler par confidentialité. Hein. Mais aujourd'hui, on parle avec tous les éditeurs, ça avance très bien et donc voilà, on espère pouvoir vous faire de belles annonces bientôt. Ça demande du temps, donc on continue de le faire, mais voilà, on parle à peu près à tout l'écosystème. D'ailleurs, pas à peu près, on parle à tout l'écosystème manga aujourd'hui, quoi.
Oui, il y a un travail de longue haleine avec une reconnaissance au fur et à mesure.
Ouais.
Quand on a l'aval de l'un, ça va apporter de la crédibilité auprès d'un autre, en fait.
Exactement. Le plus dur, c'est au début, hein. Parce que et ça les éditeurs, on peut pas leur reprocher, parce que quand vous discutez de ça, ils vous disent mais vous savez, moi tous les 3 mois j'ai quelqu'un qui me dit on va lancer un Netflix du manga, et ça fait 3 mois depuis 10 ans quoi, depuis 10 ou 15 ans, et en fait il y a jamais rien qui se passe. Donc en fait ils sont pas forcément dupes du premier venu. Il faut faire ses preuves, donc c'est normal aussi que tout ne se fasse pas instantanément. Mais comme tu le dis, il y a ceux qui aimeraient le faire, qui se disaient est-ce que les Japonais vont vraiment pouvoir le faire. Maintenant on sait que c'est possible. Il y avait d'autres éditeurs qui disaient bon ben pourquoi pas, mais c'est peut-être encore un peu petit. Maintenant ça devient plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est rentré un peu dans un cercle vertueux où aujourd'hui il y a plus vraiment de freins idéologiques ou théoriques sur le fait de venir chez nous quoi. Après il y a encore évidemment un combat de longue haleine, et on continue à donner beaucoup d'efforts là-dessus, mais c'est sûr, voilà, il y a un cap qui a été passé. Maintenant, next step, et on continue à tout donner, quoi.
Ok. Sur les prochaines étapes, là où on veut amener Mangayo actuellement, c'est quoi?
Alors, plusieurs couches de lasagne. Il y a des plans pour à peu près les 5-10 prochaines années de manière très détaillée, et des visions encore plus ambitieuses. Après, ce qu'on peut déjà dévoiler aujourd'hui, il y a donc l'étape d'après, c'est d'avoir encore plus de gros titres et encore plus d'éditeurs. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui est nécessaire, puisque aujourd'hui, même avec un prix où, quand même, quand vous lisez un manga, c'est rentabilisé hein, sur Mangayo. Même avec ce prix-là, même avec les plus de 500 ou 600 tomes qu'il y a à lire, dont Assassination Classroom, dont Todag, en Simultra, dont Naruto, etc., enfin, avec des gros titres, il y a encore des personnes pour qui c'est le rapport qualité, enfin, quantité-prix n'est pas encore suffisant. Donc, ces jours-là, il faut qu'on aille les chercher, et on va les chercher avec des encore plus de titres. Donc ça, c'est évidemment l'étape suivante. Et après, il y a beaucoup d'autres chantiers. Il y a un chantier qui est c'est plutôt de la tambouille pour en B2B, hein, donc c'est plutôt une interface professionnelle, ce qu'on appelle le Mangayo Pro, qui est en gros le fait de permettre aux éditeurs de tester et de suivre avec beaucoup plus de précision un peu le succès ou l'échec ou la dynamique qu'il y a au niveau de leur titre sur la plateforme. Donc il y a ça, il y a l'ouverture à peut-être des auteurs indépendants, il y a l'ouverture à des créations originales, tout ça, voilà. En fait, pour faire simple, aujourd'hui on est en train de créer un modèle qui n'existe pas dans le manga. On est quelques-uns à l'échelle du monde à le faire, et on est les seuls en France à vraiment le porter sur cette formule multi-éditeur 100% abonnement. Plus on marchera bien, plus on se développera, plus ça va aiguiser l'appétit de d'autres personnes, de d'autres concurrents en fait. Et donc à un moment, il se posera la question du fait d'avoir un modèle qui est créé, il peut se copier. Et donc à partir du moment où ils se copient, c'est ce qu'on a pu voir par exemple avec Netflix, Disney+, HBO, Salto, tous ces trucs-là. C'est le catalogue qui fait la différence, et les exclusivités. Donc voilà, donc il y a des sujets de sécuriser en fait ce qu'on est en train de créer aujourd'hui pour ne pas se faire dépasser dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est aussi ça le sujet quoi.
Deux questions qui me viennent, alors qui sont très différentes. La première, c'est sur le Simultrad. Actuellement, il n'y a que Todag en Simultrad sur le Mangayo?
Ouais, pour l'instant, il n'y a que Todag en Simultrad. Puisque pour l'instant, vu qu'on vient de décrocher des accords avec la Shueisha, il faut déjà que la première exploitation des titres à l'abonnement sur le catalogue normal fasse ses preuves. Et puis l'étape logique d'après, c'est d'intégrer la Simultrad. Mais on ne peut pas le faire d'un coup. Enfin, c'est, en gros, c'est comme on a déjà plus de 40 ou 50 titres de Nazca, de Kana qui sont arrivés. Voilà, il faut déjà bien gérer cet afflux-là, bien gérer l'éditorialisation, la promotion de ces titres. Et l'idée, c'est que nous, on aimerait aller aussi sur la Simultrad le plus vite possible, mais Encore une fois, étape par étape, on y arrivera. Quoi.
C'est ça, prendre le temps de bien faire les choses plutôt que se précipiter. Ça.
Exactement.
Et une question qui me vient également, est-ce qu'il peut être imaginé quelque chose à destination des bibliothèques ?
Alors, c'est pas qu'il peut être imaginé, c'est qu'on travaille déjà dessus. Donc là, on a signé notre première bibliothèque la semaine dernière. Et donc on va amorcer ce chantier. On a fait beaucoup de travail en amont pour y réfléchir. Et donc en règle générale, le fait de travailler avec les collectivités locales, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, tout à l'heure, je te parlais du fait qu'on voulait construire le projet avec la communauté. On est aussi une entreprise qui s'est lancée en 2019, on est en 2022, et donc en fait, les enjeux de notre époque nous obligent aussi en tant qu'entreprise à être à la hauteur. Tu vois. Donc, sur des enjeux de société, sur des enjeux d'égalité salariale, de sexisme, il y a plein d'enjeux aujourd'hui sur qu'est-ce qu'est une entreprise en 2022. Et parmi ça, il y a aussi l'impact en tant qu'entreprise culturelle et de dire, en France, acheter beaucoup de mangas en papier, c'est super. Enfin, nous, on est tout à fait pour. On sait que dans certains territoires et dans certains milieux, c'est pas toujours possible. Et du coup, on a un travail à faire avec les collectivités, avec les médiathèques, avec les régions, avec les lycées, pour aussi favoriser la diffusion culturelle du manga. Sans que la finalité, en tout cas sans qu'il y ait un obstacle financier qui pénalise certains jeunes et certaines catégories de population. Quoi. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on a envie de faire et on va aussi mettre l'accent dessus.
Alors, j'ai pas vraiment d'autres questions, je pense que j'ai fait déjà pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des sujets que toi tu aurais voulu aborder ?
Oh, il y aurait beaucoup de sujets potentiels. Si on veut rester un peu dans le dans la sans aller trop en profondeur. En règle générale, j'aurais aussi une sorte de message, si on peut dire, à faire passer à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de en fait les réactions de la communauté par rapport au projet sont divisés en général en deux catégories et ça c'est étudié dans tous les phénomènes d'adoption de produits en général mais il y a ceux qui sont très enthousiastes dès le début en fait, qui disent c'est génial, on va le prendre, etc., c'est comme ça que ça va marcher. Et il y a aussi la communauté qui se dit pour l'instant c'est pas forcément il n'y a pas forcément des titres qui m'intéressent, ou il n'y a pas forcément la quantité qui m'intéresserait pour le prix, etc. Mmh. Ce qui est intéressant, et ce qu'on essaie toujours de dire, c'est que c'est parce que les gens viennent qu'il y a des contenus intéressants. C'est pas parce que les contenus sont intéressants que les gens viennent, même si évidemment il y a un truc qui se vérifie. Hein. Mais en fait, c'est grâce au soutien de la communauté que les éditeurs ont été convaincus. Et en fait, plus ça ira, plus les gens s'inscriront et du coup plus il y aura de contenu. Donc c'est aussi ça, c'est vous en tant que lecteur de manga, les lectures que vous faites en papier ou en numérique légal, c'est ce qui soutient l'industrie et en fait c'est ce qui permet derrière à des solutions vertueuses de se développer et c'est aussi ce qui permet à des auteurs de se faire éditer parce que sinon on se focalise juste sur les best-sellers parce qu'on prend pas de risque. Mais justement là, c'est un peu le cercle vertueux qu'on essaie de construire avec Mangaio, c'est un peu ça. Donc voilà, construisons ensemble ce projet un peu fou et je pense qu'on aura moyen de faire quelque chose d'assez exceptionnel et de continuer ce qu'on est en train de faire qui est déjà super.
Et puis le modèle Mangaio permet quand même de découvrir pas mal de titres sans débourser un centime, ce qui peut inviter à prendre un abonnement s'il y a un titre où on s'est dit tiens ça a pas l'air mal, j'ai envie de lire la suite.
Ouais, complètement. Enfin, c'est pour ça. Et même si tu, ce que je disais tout à l'heure, dès que t'as lu un manga en fait t'as rentabilisé ton abonnement. Donc là, tu vois ce que je veux dire. Après bon évidemment les gens ont pas, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont pas forcément la même attente sur le numérique ou sur le papier. Mais même quand on regarde aujourd'hui les prix qui se pratiquent sur un achat d'un PDF, c'est quasiment le même prix que l'abonnement. Hein. Sauf que t'as qu'un tome, quoi. Alors que là, t'en as 600, quoi. Donc c'est pour ça, le modèle est hyper intéressant. Et en plus, ce qui est très spectaculaire, c'est que comme l'expérience est totalement ouverte, donc une fois que t'es inscrit sur la plateforme, tu peux tout lire. Tu vas lire des titres que tu n'aurais pas payé, en fait. Si je t'avais dit, ah, mais c'est 30 coins ou c'est 4,90, tu l'aurais pas payé. Et donc, en fait, les gens se mettent à lire des titres qu'ils n'auraient pas achetés. Et ça donne des revenus qui sont vraiment hyper intéressants pour les éditeurs. C'est-à-dire que ça crée vraiment une économie qui n'existait pas avant, parce que l'économie du numérique légal en France aujourd'hui, c'est 1% du marché. Pour rappel, c'est 60% au Japon. Donc on est vraiment à la ramasse dessus. Et donc on est en train de créer un marché qui jusqu'à présent n'était pas intéressant pour les éditeurs et qui le devient. Donc voilà, c'est assez impressionnant de voir ça. Et bah, nous, on est très contents puisque ça conforte notre hypothèse, hein, dans la construction d'un monde économiquement sain aussi en termes de découverte de manga, quoi.
Ah oui, c'est un cercle vertueux. Est-ce que si on reprend les éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est des éditeurs qui n'avaient pas forcément une grande visibilité, qui vont être lus, et les gens vont vouloir acquérir les tomes pour les avoir chez eux, donc tout le monde y gagne, en fait.
Ouais, exactement. En fait, tout le monde y gagne.
Le lecteur...
Ouais. C'est exactement ça, et donc c'est pour ça qu'il y a un truc à construire, mais pour ça, il faut cocher plein de cases. Et ça, c'est ce qu'on explique aussi beaucoup dans nos discussions, dans le négo éditorial, c'est que... Il faut que ce soit un acteur qui maîtrise la tech, il faut que ce soit un acteur qui soit neutre et qui appartienne pas à un éditeur, parce que sinon les autres peuvent pas ou veulent pas aller dessus. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit pas issu du monde des scantrades avec plein de casseroles aux fesses, comme on peut le voir de temps en temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà. Il faut vraiment un alignement et un bon positionnement. On y va tranquillement et sûrement, mais je pense que c'est pour ça que ça marche, quoi.
Comment ça se passe la sélection des titres qu'on peut découvrir sur Mangayo? Parce qu'il y a certains éditeurs, par exemple, qui étaient peu connus, alors que les titres sont très connus, que ce soit par le biais de l'adaptation cinématographique. Je prends par exemple Old Boy. Tout le monde a entendu parler d'Old Boy, mais pas tant de monde que ça l'a lu.
Je pense qu'il y a même moins de monde qui l'ont lu que de monde qui l'ont vu, probablement. En fait, la négociation des titres en eux-mêmes se fait un peu des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on a toujours insisté pour avoir des titres qui soient d'abord d'une grande qualité, ensuite qui soient des mangas. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de cocher les cases, le fait d'avoir une identité 100% manga est hyper importante pour la communauté. Et si on commence à avoir des comics, si on commence à avoir des romans graphiques, des BD, etc., ça devient... En gros, là... Le produit devient moins identifiable. Donc ça, c'est très important. Donc on est vraiment resté focus sur ce critère d'avoir des mangas japonais de qualité, etc. Une fois que ces conditions-là étaient remplies, il y avait aussi la réalité du terrain qui était de dire, bah, en fait, aujourd'hui, quel éditeur est prêt à se lancer? Quel éditeur japonais est prêt à se lancer? Etc. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'au début, on s'est lancé avec un éditeur, puis depuis trois, etc. Et ça s'est fait. Comme ça, il y a finalement pas mal d'éditeurs français qui étaient intéressés. Au Japon, c'était un poil plus lent au début, parce qu'il y avait Futabasha qui s'est lancé en premier, et puis ensuite il y a eu la Shueisha. Mais ça marche par étage aussi, tu vois. Donc en gros, il faut arriver à débloquer l'éditeur français et l'éditeur japonais pour qu'un titre arrive sur la plateforme. Et donc c'est pas toujours les titres que l'on veut, et c'est pas toujours les titres que l'on choisit, mais par contre nous, on fait toujours en sorte que les titres qui in fine arrivent sur la plateforme sont des titres de qualité, sont des titres japonais, sont des mangas, enfin quand je dis japonais, asiatique, sont des mangas, etc. Quoi. Parce que, donc ça se passe à peu près comme ça, en termes de sélection. Après, un truc qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il y a un énorme travail qui est fait par notre équipe éditoriale pour que... on soit pas, encore une fois, juste une espèce de marketplace où on met tous les titres et c'est bah, lisez, bingez ou regardez ce que vous voulez. Mais vraiment de faire ce qu'on appelle une éditorialisation ou une sérialisation, où les titres, ils sortent pas forcément tous d'un coup, ils sortent à une pour qu'il y ait une quantité qui soit acceptable et intéressante pour les lecteurs, mais elles sont travaillées par rapport aux nouveautés papier. Par exemple, tu vois, quand t'as les quatre premiers tomes qui sont là et le tome 5 qui va sortir en juillet, donc on se débrouille pour faire monter petit à petit le titre jusqu'à la sortie papier. Ça peut être mettre l'accent sur un titre qui a pas très bien marché, mais on va mettre un coup de visibilité sur ce titre. Ça peut être, donc, évidemment dans le cas de la simultrade, travailler par rapport au rythme en Asie. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment une réflexion qui est très poussée sur la plateforme pour qu'il y ait non seulement tous les jours des nouveaux contenus, mais que ce soit pas balancé n'importe comment aussi. Et c'est aussi une des raisons qui fait que les éditeurs sont contents. Parce que c'est pas juste pour 6,90, je lis tout et puis on s'en fout, quoi. C'est il y a un vrai travail en collaboration.
Il y a presque même un travail d'éditeur dans l'édition, déjà.
Ah oui, complètement. Complètement, oui. Et ce qu'on fait, on ne pourrait pas le faire sans les éditeurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment... les gens ne le voient pas parce que c'est invisible sur la plateforme, mais il y a des très grosses réunions qui sont faites avec en comité édito et avec plein d'hypothèses de planning, etc. quoi. Donc c'est travaillé 6 mois à l'avance. Il y a du boulot, quoi.
J'imagine un petit peu ce genre de réunion comme la sélection des matchs de foot à l'école. Alors, je vais prendre lui, mais je veux lui dans mon équipe.
Ouais, en vrai, non, on veut tout le monde dans notre équipe, mais par contre, on fait pas rentrer tout le monde en même temps, quoi. Il y a un management de joueurs à bien caler, quoi.
C'était Yunji Unada sur le 101.5 de Radio G. Je le remercie de m'avoir accordé cette interview. Il est le COO de Manga.io, une plateforme que je vous recommande. C'est pas de la pub, hein, promis. C'est juste que je trouve ça vraiment très intéressant comme concept. Actuellement, pour 2 euros, en fait, vous accédez à une sélection assez large d'un catalogue de manga en lecture en ligne. Comme on l'entendait, c'est pas juste en fait de la promo de super bouquins et compagnie. Il y a un vrai choix qui est fait, il y a une vraie intention éditoriale derrière, ce qui fait que c'est super agréable, et puis ça vous permet aussi d'enchaîner et d'acheter vos mangas que vous allez pouvoir classer dans votre bibliothèque ou faire découvrir à d'autres personnes. Si vous aimez, c'est toujours la case de Seb, je sais pas si je l'avais dit, sur le 101.5 de Radio G. J'espère que ça vous a plu de découvrir comment fonctionnait cette jeune plateforme, puisqu'au final elle est quand même assez jeune, que j'utilise moi régulièrement, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous la recommande encore une fois. On va rester du coup dans le manga, hein. Y a des enchaînements qui sont plutôt pas difficiles à faire. On est toujours sur la thématique de la mémoire et avec un manga qui est plutôt atypique, un manga qui est disponible aux éditions Kiun, qui ne doit pas être disponible encore sur la plateforme manga.io. J'ai pas vérifié, honte à moi. Il s'agit de Frieren, je sais pas comment le prononcer, hein, Frieren, donc je sais pas d'où ça vient, mais je vais le dire, Frieren, qui est scénarisé par Kaneito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe. Alors, on est sur la thématique de la mémoire, et là, c'est un manga qui décide de prendre à contre-pied nos attentes. Vous savez, souvent, les mangas, ils vont vous raconter une quête au long terme, avec des difficultés, des choses qui sont surmontées. Et bien là, on commence par la fin. On suit l'histoire d'une équipe de héros dirigée par Imel qui rentre dans un village après avoir terrassé le roi des démons au prix de 10 ans de bataille, 10 ans de quête héroïque. Et pour fêter cette victoire dans le village, ils vont regarder une espèce de feu de... comment dire, des soirées d'étoiles filantes qui, comme par hasard, arrivent ce soir-là. Et là, Frieren, la jeune elfe, si tout est relatif, hein, je dis jeune, mais bon, elle a quand même un certain âge, leur dit que elle connaît un endroit où ce genre d'événement est encore plus joli à regarder et qu'elle emmènera ses compagnons lorsque ça se reproduira dans 50 ans. Elle va tenir parole et elle va être la seule à avoir gardé son aspect juvénile, son aspect de jeune adolescente, alors que ses trois compagnons, ont tous accusé de ces 50 années passées, et elle va les accompagner pour voir cet événement céleste. Et c'est à ce moment-là, en fait, où elle va se rendre compte d'une chose, c'est qu'elle a beau avoir passé 10 ans avec ces gens-là, elle les connaît peu. Elle s'y est pas attachée
aussi facilement que la façon dont un humain va s'attacher à un autre humain dont il va parcourir les 10 années. Pour elle, le temps n'a pas la même importance. Et on va suivre en fait l'histoire de cette elfe qui va commencer à essayer, pas de se rappeler qui ils sont, mais de se reconnecter à ses compagnons de voyage qui ont pu compter dans sa vie, malgré le fait que ces 10 années pour elle n'étaient peut-être qu'une heure, si on devait remettre en place un parallèle. Et elle va vraiment aller à la recherche des émotions, tenter de se connecter avec ses compagnons qui, malheureusement, vont finir par disparaître avant qu'elle n'ait vraiment le temps de savoir qui ils étaient. Et puis, peut-être par malice, peut-être par inadvertance, elle va se laisser confier une apprentie qui forcément va vieillir plus vite qu'elle pour honorer la mémoire d'un de ses compagnons. Je vous laisserai le découvrir. Mais c'est super touchant en fait d'avoir un monde d'heroic fantasy qui nous parle de la mémoire, qui va nous parler, il y a des passages un petit peu épiques, mais surtout c'est vraiment le temps qui passe, qui est au cœur du sujet, et ça marche très bien. On a un aspect un peu contemplatif, du coup ça rend le sujet aussi intéressant que la façon dont on nous le raconte, mais c'est vraiment un beau manga. Graphiquement c'est vraiment sympa aussi. On a l'âge qui est mis en place sur les personnages, qui marche bien. On les reconnaît tout en les voyant vieillir. Alors même si vous verrez assez vite que Imel a pris un gros coup de vieux d'un coup, mais ça marche très très bien. J'ai pas regardé combien il y avait de tomes au Japon, mais en tout cas c'est une série qui à mon avis devra prendre son temps pour nous faire prendre conscience du temps qui peut s'écouler et du fait que si on veut se connecter aux gens qu'on aime, faut pas attendre qu'ils soient partis, parce que c'est un petit peu trop tard. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. Je vous redonne les références de Frieren. Il s'agit de Frieren, le titre c'est le même, qui est disponible aux éditions Kiun, dans la collection Shonen, un scénario de Kaneito Yamada avec un dessin de Tsukasa Abe. Je vais bientôt rendre l'antenne, j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie. Je vais vous laisser avec des gens qui en mettent un gros et qui en ont un gros. C'est l'équipe du... Non ? Ah, pas... Ils vont être calmes ce soir ?
Oui !
Je vous crois pas. Donc je vous laisse avec le gros bazar dans quelques instants. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas d'écouter le podcast qui sera disponible dans quelques instants sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et en attendant, n'oubliez pas de rire, n'oubliez pas de lire. Faut pas oublier de rire non plus. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je vois de ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
I should have closed my eyes, but it was so bright, so bright, so bright that I forgot. Yeah, it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the
Everybody.